Je vous présente maintenant le conférencier de ce soir. Il s'agit de Bernard Cloareng, qui est directeur de la station biologique de Roscoff, comme je l'ai dit, et professeur à l'université Paris 6. Il est né en 1953. Il est de formation ingénieur agronome, 1976, docteur d'État en sciences naturelles en 1984. Il a été chargé de recherche au CNRS de 78 à 90, directeur de recherche de 1990 à 2002. Ses travaux portent sur les caractéristiques génétiques, biochimiques, physiologiques et biologiques des algues marines et de l'environnement marin, j'élargirai. Il est l'auteur, bien évidemment, comme tous nos intervenants de cette série, de nombreux articles spécialisés dans les revues nationales et internationales à comité. Je ne vous les indique pas, parce que ce serait un peu compliqué, mais je vous renvoie au site, à notre site internet, où un certain nombre de ces publications sont recensées. Voilà, je vais lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, une heure environ de conférence, et ensuite je reviendrai ici pour la séance des questions auxquelles il se prêtera volontiers. Voilà, merci.
Bien, bonsoir. Donc, comme vous le voyez, j'essaye d'amener un peu la mer à Paris. Et donc je vais vous parler d'algues et non pas d'organismes marins en général, parce qu'il faut quand même un peu cibler le propos. Donc merci à l'Université de Tous les Savoirs de me donner cette occasion de présenter nos travaux sur les algues. Alors, le titre donc, algues, génome et biotechnologie. Je pense qu'en ce qui concerne les biotechnologies, je ne pourrais pas aller très loin faute de temps, mais je vais essayer d'y arriver néanmoins. Donc voilà, là vous avez devant vous une image prise devant la station biologique de Roscoff à marée basse, où vous voyez que le substrat rocheux est tapissé d'algues, de grandes algues, en l'occurrence là, des laminaires, Laminaria digitata. Bien, alors, à Roscoff, nous avons mis en place une équipe, depuis maintenant, j'ai commencé moi-même il y a une trentaine d'années, qui est assez développée dans le domaine des algues, avec, vous voyez, trois grands axes, génomique fonctionnelle, biochimie, et puis de la biochimie encore un peu plus spécialisée autour des interactions entre les protéines et les polysaccharides. Et une grande partie de ce que je vais vous indiquer ce soir, évidemment, provient des travaux de moi-même et de mes collègues, mais à la limite surtout de mes collègues. Et donc, je me garderai bien de les oublier. Donc, une grande partie de ce qui va être montré, de temps en temps, je rappelle les gens qui contribuent, mais si j'oublie, eh bien, ils sont tous là. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler sur les algues, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi travailler sur des végétaux qui, vous le verrez, ont été longtemps considérés comme inférieurs. Et je pense qu'une première raison, toute simple, c'est que les algues, c'est joli. Et je vais vous montrer un certain nombre de photographies tirées de cet ouvrage qui s'appelle « Algues de Roscoff », qui vient d'être édité par la station biologique de Roscoff, qui vient d'être écrit par deux de mes collègues, Suzanne Loiseau de Goyer et Marie-Claude Noailles. Si certains d'entre vous êtes intéressés, lorsque vous aurez vu les photos, d'abord je peux laisser l'exemplaire pour regarder. Et puis, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le faire. J'ai donné les indications nécessaires. Donc les algues, qu'est-ce que c'est? Il y en a de plusieurs types. Traditionnellement, on parle d'algues rouges, d'algues vertes et d'algues brunes. Donc voilà des photos tirées de l'ouvrage en question. Et vous avez là sur la gauche une série d'algues rouges, sur la droite une série d'algues vertes. Je les ai mises côte à côte parce que, vous le verrez plus tard lors de notre discussion, les algues rouges et les algues vertes sont considérées comme des lignées sœurs, c'est-à-dire des phylums qui sont très proches les uns des autres. Alors, très proches les uns des autres, ça ne veut quand même pas dire qu'ils sont si proches que ça, parce que vous verrez que ces phylums ont en fait émergé de manière indépendante il y a plus de 1000 millions d'années. Donc, on peut relativiser la proximité. Mais néanmoins, et on montrera à plusieurs reprises, il y a des liens entre les algues rouges et les algues vertes au plan évolutif. Alors, je vais également vous parler ce soir d'une deuxième catégorie d'algues, les algues brunes, qui sont donc là présentées sur la droite. En particulier, il y a toute une série de laminaires. Les algues brunes ont pour parent proche des micro-algues également de couleur brune, qu'on appelle des diatomées, plus un certain nombre d'autres choses. Et d'emblée, je voudrais vous dire que je n'ai pas l'intention ce soir de dire quoi que ce soit, ou très peu de choses en tout cas, à propos des microalgues. Et pourtant, le monde des microalgues est un monde aussi divers, sinon plus divers que celui des grandes algues. et il aurait valu effectivement la peine que je parle de cela, sauf que je ne suis pas spécialiste de cela, donc je peux guère en parler. Il y a un certain nombre de mes collègues à Roscoff qui auraient pu le faire. Donc vous voyez, diatomées, algues brunes, là encore, des lignées évolutives qui sont considérées comme proches ou relativement proches. Alors, je vais parler pas mal d'évolution ce soir, mais je tenais à montrer cela au départ, donc un schéma que j'ai emprunté à Haeckel via Madame Gribaldo. Lorsque, je pense que dans l'inconscient collectif, on sait plus ou moins que les formes de la vie sont liées les unes aux autres et que quelque part, tout part d'une base commune. Donc là, on appelle l'arbre du vivant. Et dans notre représentation mentale de ce qu'est l'évolution, on a tendance à considérer que ça part de là et puis qu'ensuite ça se sépare en trois grandes lignées, les plantes, les animaux et les protistes. Alors ça induit un certain nombre d'images mentales ensuite. C'est que, par exemple, on a tendance à considérer que les lignées qui sont à la base, là, de cette, par exemple, de la lignée des plantes, sont inférieures. Les plantes étant, et c'est toujours dit, je l'entends toujours, des végétaux considérés comme supérieurs. Donc on parle couramment, on oublie un peu les protistes, et on parle couramment du règne des plantes et du règne des animaux. Et je vais essayer de vous montrer que cette image est dépassée et qu'elle engendre un certain nombre d'idées qui sont fausses et qu'il faut donc éviter de propager. Alors, néanmoins, à partir de cette représentation mentale, on a un certain nombre de schémas de raisonnement qui restent vrais. On a tendance à considérer que si deux organismes partagent un caractère donné, alors ils sont vraisemblablement descendants d'un ancêtre commun qui possédait déjà ce caractère, au moins sous une forme ancestrale, qu'on peut dire primitive d'ailleurs quelquefois. Donc ça, essentiellement, je crois que c'est à la base de notre raisonnement, à tous qui faisons de l'évolution, tellement à la base de notre raisonnement que, en fait, c'est ce même raisonnement qui sous-tend ce qu'on appelle les phylogénies moléculaires, dont je vais vous montrer quelques exemplaires tout à l'heure, qui sont donc des reconstructions phylogénétiques déduites de la séquence des gènes. Donc on compare la ressemblance ou la divergence de gènes qui dérivent d'un même ancêtre, donc on appelle des gènes orthologues, et puis on se dit, plus ils sont ressemblants, plus les organismes qui renferment ces gènes sont apparentés. Donc ces deux types de raisonnements sont, je pense, toujours très présents dans notre manière de travailler et sont sans doute essentiellement vrais, mais il y a évidemment, comme à toute règle, il y a des exceptions, là aussi il y en a, et il peut arriver que l'évolution conduisent à ce que des lignées non apparentées mettent en place, donc indépendamment les unes des autres, des caractères qui se ressemblent. Et du coup, on peut faire un raisonnement qui est faux en disant que ces lignées sont apparentées puisqu'elles ont des caractères qui se ressemblent. Et en réalité, ça, c'est du coup faux, en ce sens que on appelle ce genre de phénomène évolutif. Bien, je parle plus fort. Donc de ce phénomène évolutif, une convergence évolutive. Alors, on aboutit donc à ce genre d'arbre phylogénétique. Et là, d'emblée, je voudrais vous montrer donc ce qui est en vert ici, donc qui est la lignée des angiospermes. Et il y a une correspondance directe entre la lignée des algues vertes et celle des angiospermes. Leur ancêtre commun est relativement proche. Alors, relativement proche, c'est plusieurs centaines de millions d'années, hein, bien entendu. Ensuite, on distingue les algues rouges. Là aussi, on a tendance à considérer qu'il y a une parenté évolutive entre les algues rouges et la lignée dite verte. Mais cette parenté évolutive, comme vous voyez, est assez ancienne, en ce sens que les algues rouges et les algues vertes sont séparées par plusieurs centaines, voire même un bon milliard d'années. Et je vais vous parler ce soir également d'algues brunes, avec donc, comme je l'ai dit, des parents proches qui sont les diatomées, ou bacillariophysées. Et là, à nouveau, il est important de remarquer d'emblée que la distance évolutive entre les algues brunes et les algues rouges et les plantes vertes donc, est elle-même extrêmement forte. Donc lorsqu'on vous parle d'algues, qu'elles soient rouges, vertes ou brunes, en fait c'est un nom commun, un nom vernaculaire, mais qui recouvre des notions, ou du moins qui recouvre des lignées qui sont très 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 divergentes les unes par rapport aux autres. Donc il ne faut pas imaginer que les algues, c'est un nom qui regroupe un ensemble qu'on pourrait qualifier de monophylétique. Non, c'est tout l'inverse. C'est bien un ensemble polyphylétique. Alors aujourd'hui, en fait, on a tendance à représenter l'évolution des eucaryotes de cette manière, sous forme d'une couronne, toujours en considérant évidemment qu'il y a un ancêtre commun, même si cet arbre n'est pas enraciné. Mais je pense qu'il est plus juste de le présenter ainsi, parce que là, on voit très bien, vous voyez, qu'il y a une lignée qu'on appelle les plantes, à laquelle, effectivement, se rattachent les algues rouges, mais que, par contre, les algues brunes, qui sont ici, vous voyez, à côté des diatomées, elles sont très, très divergentes. Elles n'ont pas grand-chose à voir, ou même rien à voir, avec les plantes. Au passage, vous pouvez remarquer qu'une lignée qu'on considérait comme faisant partie des champignons, les oomycètes, on a toujours la terminaison mycète, mais ces champignons n'ont rien à voir phylogénétiquement ou de manière évolutive avec les champignons qu'on trouve ici, vous voyez, fungi. Donc c'est pareil, le terme de champignon est un terme qui, du point de vue de l'évolutionniste, ne veut pas dire grand-chose de précis. C'est un terme vernaculaire à nouveau, mais qui ne résiste pas à l'analyse phylogénétique. Il y a une deuxième notion que je voulais vous véhiculer ce soir, vous amener ce soir, c'est la notion de multicellularité ou pluricellularité. Et lorsque vous revenez à l'arbre inférieur, à la photo précédente, vous vous rendez compte que dans ces grandes lignées, là, ces 8 phylums, eh bien 5 d'entre eux comprennent des organismes qui sont pluricellulaires, donc composés d'un grand ensemble de cellules. Les métazoaires, les champignons au sens vrai du terme, les plantes, les algues rouges et les algues brunes. Or, des organismes pluricellulaires, on en trouve quelques-uns, par exemple chez les bactéries, mais c'est quand même pas le cas le plus général, c'est même très rare. Et donc, pour l'essentiel, on peut considérer que la pluricellularité a été inventée par les eucaryotes. Mais comme ces lignées, toutes les lignées auxquelles je fais allusion, les métazoaires, les champignons, etc., ont eu pour ancêtre commun un ancêtre qui était unicellulaire, la déduction logique est que la pluricellularité ou la multicellularité ont été inventées indépendamment, à chaque fois, dans chacune de ces lignées. Donc le fait d'être un organisme pluricellulaire, comme vous et moi, ou comme les plantes, ou comme les algues rouges ou les algues brunes, c'est typiquement ce qu'on appelle une convergence évolutive, c'est-à-dire une évolution qui s'est produite indépendamment dans diverses lignées. Alors, je vais essayer maintenant de vous présenter les faits majeurs qui conduisent à l'apparition de la multicellularité, les caractéristiques, on va dire, biologiques qui sont essentielles à ce qu'un organisme devienne multicellulaire. Et il y en a au moins 3 caractéristiques communes auxquelles on peut penser, en tout cas c'est ma vision des choses. La première, il faut, pour qu'un organisme devienne multicellulaire, que les cellules soient entourées de ce qu'on appelle une matrice, donc matrice extracellulaire, à l'extérieur de la cellule. Alors il en existe, bien entendu, des matrices extracellulaires chez les organismes unicellulaires, mais il se trouve que chez les eucaryotes pluricellulaires, cette matrice extracellulaire est extrêmement développée et très différenciée. Elle est composée de polysaccharides, de protéines, et c'est toujours ainsi, quelle que soit la lignée à laquelle on s'adresse, donc en particulier, vous voyez, les lignées végétales ou les lignées animales. Donc ça, c'est un premier point essentiel qui permet la multicellularité, ne serait-ce que parce que ça rend les cellules cohésives, capables d'adhérer les unes aux autres. Donc ça participe à l'adhésion cellulaire. Ça participe à un certain nombre d'autres phénomènes qui sont essentiels chez les organismes pluricellulaires. En particulier, l'information de position. Une cellule doit savoir où elle est dans l'organisme pour fonctionner correctement. Et puis, je montrerai aussi, mais de manière rapide, que la matrice extracellulaire intervient dans les réactions de défense, en particulier dans la reconnaissance des pathogènes. Précisément, une deuxième caractéristique qu'on peut considérer comme commune à l'ensemble des eucaryotes multicellulaires, c'est le fait que ces organismes sont capables de se défendre contre des agressions, en particulier des agressions par les micro-organismes. Et donc, ils ont développé des systèmes de défense contre des agressions par des micro-organismes, des agressions par des organismes biologiques, donc, qu'on appelle communément immunité innée. Donc, sur la photo de droite, ou les photos de droite, vous voyez, enfin, j'ai repris donc une illustration de la phagocytose. Je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers ou familiarisés avec ces notions de phagocytose, la capacité à ingérer des micro-organismes et à les détruire par un certain nombre de réactions chimiques. Mais il faut savoir que les plantes vertes et les algues, vous le verrez, sont capables, elles aussi, de se défendre contre les micro-organismes. Si ce n'était pas le cas, d'ailleurs, il serait impossible qu'il y ait des plantes sur Terre ou même dans la mer. Donc c'est une caractéristique qui est partagée par la plupart des organismes vivants et qui est très, très développée chez les lignées qui ont développé la pluricellularité. Alors, ce qu'on voit ici, c'est par exemple une réaction de défense contre une attaque par un insecte avec un certain nombre de composés chimiques qui se mettent autour du point d'attaque, qui sont visibles en ultraviolet. Une notion qui est intéressante également, dont on aura peu l'occasion de parler néanmoins, c'est que la plupart des réactions de défense sont dites systémiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables elles concernent la totalité de l'individu, de l'organisme. Si un organisme est attaqué à un endroit donné, il répond sur l'ensemble de son organisme. Donc c'est ce qu'on appelle la systémie. Et c'est à l'évidence quelque chose d'important pour un organisme pluricellulaire, que de défendre la totalité de l'organisme. Et une troisième caractéristique qui me paraît commune aux eucaryotes pluricellulaires, et là je montre, vous voyez, des schémas de développement chez une algue brune, Fucus, ou chez l'oursin, ou chez une plante verte, Arabidopsis, qui est un modèle de génétique dont on a dû vous parler hier, et puis chez un autre modèle de génétique animale, un ver plat, Cynorhabditis elegans. Une chose essentielle, évidemment, pour un organisme pluricellulaire, c'est que qui comporte des cellules différenciées, c'est que ces cellules différenciées n'aillent pas n'importe où et n'importe quand à l'endroit où elles devraient aller. Et donc, il faut un contrôle strict dans l'espace et dans le temps de la différenciation des cellules. Ce type de contrôle n'a pas lieu d'exister, à l'évidence, lorsque un organisme est composé d'une cellule ou même de deux ou trois cellules. Lorsqu'un organisme est composé de plusieurs millions de cellules, il est clair que des cellules ayant des spécialités différentes, il est clair que les cellules spécialisées doivent se différencier à l'endroit où elles doivent se positionner. Donc, vous voyez, il y a, de mon point de vue, trois grandes caractéristiques communes aux eucaryotes multicellulaires, une matrice extracellulaire développée, un système immunitaire complexe et des patrons de développement strictement régulés. Alors jusqu'à présent, tout cela a été étudié soit chez les plantes, soit chez les animaux, hein, de manière assez intense. Et ça n'a guère été regardé ailleurs, sauf peut-être chez quelques champignons pluricellulaires, mais à peine. Donc, en ce qui nous concerne, évidemment, la question que nous posons, c'est est-ce que tout cela existe chez les deux lignées pluricellulaires qui nous intéressent, les algues brunes et les algues rouges? La réponse est oui. Les algues brunes et les algues rouges ont, enfin les algues marines en général, mais en l'occurrence les algues brunes et les algues rouges, ont ces trois types de caractéristiques, des matrices extracellulaires développées, on voit ici une coupe dans une algue rouge, colorés par des colorants qui montrent les polysaccharides, des patrons de développement extrêmement précis. Là, je montre une image qui montre une algue géante qu'on appelle Macrocystis, où vous voyez à l'évidence que les cellules sont différentes les unes des autres, ou en tout cas avec des organes qui apparaissent. Et puis, les algues sont également capables de se défendre contre les agressions. Là, je montre un petit herbivore, un alcyon, sur une tige de laminaire, une jeune tige de laminaire. Vous voyez que l'algue finit par réagir au broutage par ce mollusque, je crois que c'est un mollusque. À l'évidence, si les algues n'étaient pas capables de se défendre contre les micro-organismes ou les herbivores, eh bien, il n'y aurait plus d'algues. Non pas sur Terre, mais dans la mer. Et donc, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que les caractéristiques qui sous-tendent la capacité à faire des matrices extracellulaires, ou la capacité à se défendre, ou encore la capacité à établir des schémas de développement régulés, est-ce que ces caractéristiques sont des choses qui sont conservées au cours de l'évolution, ou est-ce qu'au contraire, c'est des choses qui ont été inventées indépendamment dans les lignées concernées? Donc, est-ce que ce sont des choses conservées ou des convergences évolutives? Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, et à l'évidence, pour faire ce genre de choses, l'information génomique est utile. Alors, dernier point, pourquoi travaille-t-on sur les algues? Eh bien, parce que ce sont des végétaux utiles qui sont récoltés. Alors, dans nos contrées, on n'est pas extrêmement sophistiqué. On récolte dans les populations naturelles par diverses méthodes, peu élaborées, d'autres plus élaborées avec des bateaux qu'on appelle... ça, c'est un bateau guémonier. Mais, quoi qu'il en soit... ces récoltes sont faites à partir des populations naturelles. Dans d'autres pays, et en particulier en Asie et en Afrique, il se trouve que les gens ont depuis longtemps appris à cultiver ces végétaux. Donc là, je montre ici, vous voyez, une culture de Laminaria japonica au Japon, enfin c'était en Chine en réalité. Et puis ici, c'est des cultures à Zanzibar, donc en Tanzanie. Et là, ce sont des cultures d'algues rouges aux Philippines. Donc en Afrique et en Asie, ces végétaux sont produits, cette fois par des techniques de culture. Alors pourquoi sont-ils produits ? Eh bien parce que il y a beaucoup d'utilisation des algues marines, évidemment des utilisations directes, dans l'alimentation en particulier, sous forme de condiments. Là je montre des sachets de nori, qui est une algue rouge porphyra, extrêmement produite et extrêmement valorisée au Japon. Mais sous forme de condiments par exemple, ou de soupe et ainsi de suite. Donc lorsqu'on va au Japon, on a des produits à base d'algues qui sont extrêmement différenciés. On n'arrive pas à s'y retrouver. Et dans nos pays à nous, eh bien, c'est plutôt des extraits d'algues qu'on utilise. Et je vous montre cela non pas pour faire de la publicité pour une marque connue, mais parce que vous voyez que sur cette photo, il est marqué un ingrédient alimentaire qui s'appelle E407. Et E407, c'est un carrageenan, donc un polysaccharide extrait des algues rouges. Il y a en général, quand vous voyez E400, de E400 jusqu'à E407, ce sont des polysaccharides extraits des algues. Donc, si vous mangez des yaourts, des glaces, etc., amusez-vous à regarder la composition et vous verrez des extraits d'algues à l'intérieur. Et puis, il y a un autre produit qui n'est plus exploité chez nous, mais qui reste exploité en particulier en Asie, qui est l'iode. Donc, je montre des fours à Guémon le brûlage du Guémon qui existait en Bretagne jusqu'à la dernière guerre. Donc la Bretagne n'est plus productrice d'iode, mais l'iode continue d'être produite à partir des grandes algues, des laminaires en particulier, laminaires tout court, en Asie, en particulier en Chine. Donc il y a plusieurs enjeux pour faire de la recherche sur les algues, des enjeux fondamentaux dont je vais vous parler ce soir, mais aussi des enjeux finalisés que je vais essayer d'aborder à la fin de mon exposé si j'ai le temps. Les enjeux fondamentaux, c'est essentiellement, ce sont des lignées qui n'ont pratiquement pas été regardées par les biologistes. Donc, ça apporte des modèles supplémentaires pour mieux comprendre l'évolution des eucaryotes. Et les enjeux finalisés, évidemment, il s'agit de gérer la ressource. En ce moment, c'est de plus en plus important, puisque la ressource est soumise à une pression de plus en plus forte. Mais aussi de valoriser cette ressource, par exemple, améliorer les espèces cultivées au plan génétique, voire même trouver de nouvelles utilisations, en particulier, par exemple, à l'aide de biotechnologies. Alors, mon exposé s'intitule « Algues, génome et biotechnologie ». Donc, je vais essentiellement vous parler de génomique. Les génomes des algues, où en est-on ? Alors, la chose qui nous a intéressé au début, bien entendu, c'est la taille de ces génomes. On essayait de comprendre, de voir s'il serait difficile d'avoir accès à ces données. Et bon, on a donc mesuré un certain nombre de choses. Et voilà un exemple de ce qu'on peut trouver comme taille de génome. Donc, les tailles peuvent être évidemment relativement modestes lorsqu'on s'adresse à des microalgues, en l'occurrence ici une diatomée, mais lorsqu'on regarde des algues pluricellulaires, eh bien les tailles de génome deviennent beaucoup plus conséquentes. Par exemple, voyez cette espèce, Phacelaria, qui est une petite algue, eh bien elle a un génome qui fait à peu près la moitié du génome humain, ce qui est quand même très très gros. Donc là, je vous ai présenté les algues brunes, les algues rouges et les algues vertes, avec comme point de référence Arabidopsis thaliana, dont on a dû parler hier soir, qui est la plante modèle dont le génome fait 125 millions de bases. Eh bien, voyez que la plupart des algues pluricellulaires sont au-dessus, et que les algues unicellulaires, qu'elles soient vertes, rouges ou brunes, donc diatonées, eh bien, évidemment, elles ont c'est pas une évidence, il se trouve que c'est comme cela, elles ont une taille de génome beaucoup plus faible. Donc là, on peut tirer deux conclusions sur la base de ce tableau. Les microalgues ont tendance à avoir des génomes relativement petits, en gros 4 à 5 fois la taille des génomes bactériens. Mais les algues pluricellulaires, par contre, ont des génomes qui ont des tailles tout à fait conséquentes, qui peuvent être même très grosses. Alors maintenant, nous sommes intéressés évidemment à des génomes particuliers, donc je vais vous parler un peu ce soir de le génome de cette algue brune Ectocarpus silicilosus, qui, vous voyez, fait 200 millions de bases, et celui de Chondrus crispus, qui est une algue rouge, cette fois, qui fait 140 millions de bases. Donc j'ai souligné dans ce tableau les génomes qui sont séquencés ou dont on va avoir la séquence sous peu. Si j'avais présenté ce tableau il y a 2 ou 3 ans, eh bien, aucun nom d'espèce n'aurait été souligné. Donc c'est réellement un secteur de la biologie qui est en train de se développer, enfin en tout cas pour lesquels on a de plus en plus d'informations. Et donc je pense que cette conférence arrive au bon moment. Alors, en France, lorsque nous voulons avoir des données sur les génomes, la tendance naturelle, et c'est une bonne tendance, c'est de s'adresser au Centre National de Séquençage, qui s'appelle Génoscope et dont le directeur va venir vous faire une conférence demain, Jean Weissenbach. Il se trouve donc que Génoscope a fait pour nous, établi pour nous le génome, enfin la carte ou la séquence complète du génome de cette algue brune Ectocarpus siliculosus. Vous voyez, l'algue brune, c'est une algue filamenteuse, mais qui se trouve être évolutivement assez proche des laminaires, donc ça peut être intéressant. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, on a aujourd'hui la séquence complète du génome qui a été assemblée physiquement, la notation automatique, c'est-à-dire avec des logiciels qui permettent de reconnaître les gènes, ou du moins le fait qu'il existe un gène, est également réalisée. Alors, comme c'est automatique, c'est pas parfait. Donc on prédit 37 000 gènes, mais en réalité on pense qu'il y en a un peu moins. Donc le nombre devrait plutôt être aux alentours de 20-25. Et puis une petite donnée que je vous demande de retenir, c'est que la proportion d'ADN codant pour des gènes est relativement faible dans ce génome, comme dans la plupart des génomes des organismes pluricellulaires, 15%. Ça veut dire que 85% de l'ADN ne code pas pour des gènes, ne code pas pour des protéines. J'y reviendrai. Et donc la notation manuelle de ce génome est en cours. Et au passage, avec 25 ou 30 000 gènes, il faut évidemment réunir du monde pour être sûr que tel ou tel gène, on allote correctement. Et donc, pour ce genre d'effort, on établit des consortia. Et donc, voilà le consortium d'Ectocarpus. Vous voyez qu'il est nécessaire de fédérer bien au-delà de la France, et a fortiori bien au-delà de la Bretagne, pour être capable d'établir la séquence complète de génome. Le deuxième génome auquel nous nous intéressons, c'est celui de Chondrus crispus. Donc l'algue rouge, alors donc vous voyez deux lignées très très différentes les unes des autres. Là encore, il a fallu réunir un consortium. Pour l'instant, donc c'est encore Génoscope qui s'occupe de cela. Pour l'instant, un projet pilote a été réalisé. Donc on a quelques indications sur, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les caractéristiques de ce génome. Et on attend là ce qu'on appelle une séquence complète, c'est-à-dire une couverture 10x, c'est notre jargon. Et on devrait avoir cette couverture 10x à la fin de l'année, et donc on va pouvoir commencer à noter de manière extrêmement précise le génome de Chondrus crispus à partir de l'année prochaine. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'indications qui sont déjà disponibles. Alors, parmi les indications qui sont déjà disponibles, on a déjà un accès relativement précis sur les génomes des plastes des végétaux. Et on a donc maintenant accès au génome, voyez, des plastes bruns, donc des plastes des algues brunes, et au génome des plastes rouges. Ce que ce diagramme montre, cet arbre phylogénétique, donc au passage, il est fait à partir de 44 protéines qui ont été assemblées les unes artificiellement par ordinateur, assemblées les unes aux autres. Donc on a un nombre d'informations ou de positions informatives extrêmement élevé, hein, vous voyez, près de 9000. Donc on est sûr que cette vision, cette comparaison de l'évolution des gènes est extrêmement solide. On ne travaille pas sur un gène seulement, on travaille sur un nombre d'acides aminés assez important. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, de la phylogénomique. Et ce que montre ce diagramme, c'est qu'il y a une parenté évolutive claire entre les cyanobactéries, les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Donc tout ça dit que les plastes rouges, les plastes verts et les plastes bruns ont pour ancêtre commun des cyanobactéries. Le problème est que lorsqu'on regarde dans les arbres phylogénétiques des eucaryotes où on trouve des lignées végétales, donc c'est ce qui est marqué photosynthétique ici, capable de faire de la photosynthèse, donc qui ont des plastes, eh bien ces lignées végétales, ou du moins ces organismes végétaux, sont dispersés au sein de l'arbre du vivant. Au passage, vous verrez qu'ici, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas présentes dans le milieu marin, et donc lorsqu'on veut faire de l'évolution, on ne peut pas ne pas regarder le milieu marin. Mais bref, c'est une remarque au passage. Alors, donc vous voyez, je reviens, dans l'arbre du vivant, il y a des végétaux quasiment partout, sauf chez les opisthocontes ici, donc les lignées dites animales. C'est un peu gênant, parce que c'est difficile de concilier une origine commune des plastes avec le fait que les végétaux soient partout, dispersés. Ou alors il faudrait supposer que les plastes ont été acquis ici et qu'ils ont été perdus à diverses reprises ailleurs. Donc en fait, c'est pas comme cela que ça s'est passé. Et je crois que la plupart des scientifiques aujourd'hui sont d'accord pour imaginer un scénario. Mais avant de vous proposer ce scénario, je récapitule. Donc je vous ai montré que les plastes dérivent d'un ancêtre commun, sont donc dits monophylétiques. Et cet ancêtre commun était vraisemblablement une cyanobactérie, donc proche des cyanobactéries actuelles. Par contre, les organismes qui possèdent des plastes, donc on appelle les végétaux, ne constituent donc pas un embranchement, ils sont au contraire très dispersés dans le règne du vivant. Donc ils forment plusieurs lignées distinctes au sein des eucaryotes, donc c'est ce qu'on appelle un ensemble polyphylétique. Et donc, vraisemblablement, l'endosymbiose, la capacité, l'acquisition des plastes, s'est produite à plusieurs reprises et de façon indépendante, donc au sein des eucaryotes. Donc c'est à nouveau un exemple de convergence évolutive. Je vous ai parlé de multicellularité, maintenant je vous parle de l'acquisition de la capacité à se nourrir à partir de l'énergie lumineuse et du carbone présent dans l'eau ou sur Terre. Eh bien, cette acquisition de l'autotrophie est à l'évidence une convergence évolutive. Et comment tout ça s'est produit? Eh bien, on a des idées et qui proviennent d'un certain nombre de choses, mais là je vous montre l'image, la représentation schématique d'une cryptophycée, donc qui est une algue rouge d'une enfin, c'est une cryptophycée. Elle est rouge en ce sens qu'elle a des plastes rouges. Mais voyez, ce plaste rouge, il est entouré par un certain nombre de membranes, un ensemble de 4 membranes, et à l'intérieur du plaste, on voit quelque chose qui ressemble bigrement à un noyau. C'est ce qu'on appelle un nucléomorphe. Ça, c'est une mitochondrie. Ça, c'est le plaste. Et à l'intérieur du plaste, il y a un noyau. Ça, c'est le noyau de la cellule eucaryote. Et donc, en fait, on en est réduit à imaginer que ce plaste, c'est vraisemblablement le résultat de l'endosymbiose entre une cellule qui n'avait pas de plaste, mais qui avait un noyau et des mitochondries, un protiste donc, et quelque chose qui était une algue rouge unicellulaire, et dont on retrouve quasiment, enfin dont le vestige aujourd'hui est appelé plaste, mais où on retrouve encore le noyau. Donc ça, c'est très clair. Un certain nombre de gens ont regardé le génome de ce noyau, les gènes du nucléomorphe. Et donc, on est aujourd'hui très sûr de notre vision, enfin, on a une vision qui semble se préciser, concernant l'origine des lignées végétales. Il y a deux types, enfin, l'origine, c'est la même, ce sont des endosymbioses. Ah, donc, il est important là que vous voyez cette donnée, 3 milliards d'années. Donc là, je remonte, vous voyez, l'homme, c'est 5 millions d'années. Là, on est à un certain nombre d'ordres de grandeur différents. Donc, il y a 3 milliards d'années, un protiste qui n'était pas capable de faire de la photosynthèse, a rencontré une cyanobactérie, et puis ils ont décidé de faire affaire, et cette cyanobactérie est devenue un chloroplaste. Ça a pris du temps, bien entendu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'endosymbiose primaire, et ça a donné naissance aux algues rouges, aux algues vertes, et aux plantes supérieures. Donc c'est en ce sens que je dis que les algues rouges, les algues vertes et les plantes sont des lignées sœurs. Mais d'autres choses se sont produites ensuite, donnant naissance à d'autres organismes, en particulier les cryptophytes dont je vous ai parlé, dont je vous ai montré une image, et les algues brunes, donc qui, moi, m'intéressent. C'est ce qu'on appelle une endosymbiose secondaire qui provient de la symbiose entre un eucaryote non photosynthétique qui, manifestement, devait être plus évolué, en tout cas plus récent que celui-ci, et qui a décidé d'avaler une algue rouge, de faire affaire avec, et ensuite, tout cela donne naissance à une série de lignées algales, dont en particulier les algues brunes et les cryptophysées. Et les dinoflagellés, qui sont d'autres microalgues. Donc, il est important ici que vous ayez présent en tête l'échelle évolutive. Là, on est bien avant Lucie. Hein. Lucie, c'est 5. Enfin, je suis pas anthropologue, mais je crois me souvenir que c'est 5 millions d'années. Là, on est à 3 milliards d'années et un peu plus tard. Enfin, là, ce genre de choses, ça a dû se produire vers 1600, 1700 millions d'années. Enfin, il y a 1700, 1800 millions d'années. Et là, un peu plus récemment, mais pas tant que ça, hein, 1,5 milliard d'années. Alors, tout cela, il y a un certain nombre de choses qui découlent de cela, et je vais essayer de vous faire réfléchir. Je vais prendre des exemples dans les trois éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, la matrice, la capacité à se défendre et la capacité à se développer de manière normale. L'organisation de la matrice extracellulaire chez les plantes et chez les algues, il y a deux types d'éléments, des éléments qu'on appelle cristallins, des éléments qu'on appelle matriciels, et c'est vrai également d'ailleurs chez les cellules animales, hein, mais c'est pas les mêmes éléments, mais c'est la même façon de s'organiser. Et l'élément cristallin que vous connaissez vraisemblablement chez tous les végétaux, c'est la cellulose. La cellulose est organisée en microfibrilles, c'est-à-dire des éléments qui donnent de la résistance à l'organisme. Les plantes n'ont pas d'eau, enfin d'os, mais elles ont une matrice extracellulaire assez solide. Alors, cette cellulose, elle est synthétisée par des enzymes qui sont réunies sous forme de complexes. Donc ces enzymes, ce sont des celluloses synthases, peu importe leur nom, et ces complexes donnent naissance, en synthétisant, en extrudant les chaînes de polysaccharides de la membrane, donnent naissance aux microfibrilles. Et je voudrais vous faire réfléchir un instant à quelle pourrait être l'origine de la cellulose. Une manière d'essayer de résoudre cette question, c'est de s'intéresser aux parentés phylogénétiques, aux relations phylogénétiques des gènes de cellulose synthase. Et donc cet arbre phylogénétique que j'ai emprunté à des collègues japonais montre l'origine les relations entre les gènes de cellulose synthase. Et il est très clair, lorsque vous voyez cela, que ces gènes de cellulose synthase sont très près. Alors, les bactéries font de la cellulose, certaines d'entre elles en tout cas. Donc il y a une relation phylogénétique claire entre les gènes de cellulose synthase bactériens et ceux des plantes. Alors il se trouve que dans les algues, nous n'avons pas encore cloné ces gènes, mais enfin je serais prêt à parier que ça se brancherait quelque part ici. Mais bon, les paris sont dangereux. Mais en tout cas, ce qu'il était nécessaire que vous reteniez, c'est que, à l'évidence, la cellulose est vraisemblablement un polymère d'origine bactérienne qui a été transféré chez les plantes via l'endosymbiose plastidiale. Alors il se trouve que chez certains animaux comme les tuniciers, les cyones par exemple, ont également des celluloses synthases. Elles l'utilisent pour faire de la cellulose, mais c'est un phénomène tout à fait paranormal, si je puis dire, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé souvent. Et c'est sans doute assez récent, hein, cette capacité des cyones à faire de la cellulose, enfin de cette lignée animale à faire de la cellulose. Et ça, c'est ce type de choses. On interprète ça en disant qu'il y a eu un transfert latéral à un moment ou à un autre du métabolisme de la cellulose chez les animaux. Donc tout ça, c'est des transferts latéraux, c'est-à-dire c'est des animaux, c'est des organismes qui ont transféré la capacité de faire un certain métabolisme aux plantes. Donc c'est les bactéries. Et puis bon, il y a quelques exceptions, et c'est sans doute beaucoup plus récent dans le cas des animaux. Donc cette notion de transfert latéral est importante parce qu'elle explique. Ça va? J'ignorais que l'évolution des algues puisse produire un tel effet. D'accord. Est-ce que je peux continuer? Très bien. Alors je reprends, ou je continue. L'évolution des complexes de cellulose synthase, on peut la regarder également d'un point de vue mécanique, et les plantes supérieures ont développé ce genre de choses, ce qu'on appelle des rosettes. On trouve cela uniquement chez les plantes supérieures, et on a tendance à en penser, donc les collègues pensent que l'évolution de ces complexes est quelque chose à voir avec la capacité des végétaux à coloniser le monde terrestre, puisque là, ils n'ont pas la possibilité d'utiliser la poussée d'Archimède pour se dresser. Alors, il se trouve que les algues ont d'autres polysaccharides, des polysaccharides sulfatés. Ces polysaccharides existent également chez les animaux, j'y reviendrai. Par contre, ils n'existent pas du tout chez les plantes terrestres. Donc, comment est-ce possible? Puisqu'a priori, il y a une origine commune. Ils existent par contre chez les animaux. Hein, on est rempli de nous-mêmes et de polysaccharides sulfatés. On appelle ça des glycosaminoglycanes. Et voyez que bon, vous êtes sans doute familier avec ces noms-là: chondroïtine, dermatane, kératane, éparane, éparine. Ce sont des molécules qui sont sulfatées, polysaccharidiques et sulfatées. Et donc dans le métabolisme de ces molécules, il est nécessaire à un moment ou à un autre de faire intervenir des enzymes qui vont être capables d'enlever ces groupements sulfates. Ces enzymes, on les appelle des sulfatases. Et là encore, on peut s'intéresser à l'origine phylogénétique, ou du moins en parenté phylogénétique des différentes sulfatases. Là, ici, sont représentées essentiellement des sulfatases de l'homme, d'insectes et de bactéries. Au passage, il est vraisemblable donc que ces polysaccharides sulfatés proviennent de bactéries. On ne trouve aucune sulfatase dans le génome des plantes terrestres. Alors que, puisque là on a regardé cette annotation-là, on l'a faite, on trouve des sulfatases chez les algues brunes. Donc vous voyez, là on est dans un cas où une caractéristique végétale présente chez les algues brunes n'est pas présente chez les plantes terrestres. Et je vais vous donner un ou deux autres exemples du même type. Notre vision des choses, c'est que les sulfatases, puisqu'elles sont présentes chez les algues brunes, chez l'homme, chez les insectes, chez les bactéries, ce sont vraisemblablement des protéines ancestrales. C'est-à-dire que elles viennent de loin, si vous préférez. Par contre, on ne détecte aucune sulfatase dans les génomes des plantes terrestres qui ont été séquencées, dont Arabidopsis, le peuplier, le soja, etc. Donc, comme je vous l'ai indiqué, le génome de l'algue brune Ectocarpus helicosus révèle la présence d'une famille de sulfatases, ce qui est très proche, a priori, des sulfatases qui agissent sur le chondroïtine chez les mammifères. Bon, peu importe la spécificité biochimique de cette sulfatase. Mais quelque part, j'en arrive à penser que ce sont les plantes qui ont perdu leur sulfatase et pas autre chose. Et donc, des protéines, vous voyez, on aurait pu considérer que les sulfatases étaient des protéines animales, mais en réalité, non. Ce sont des protéines ancestrales, tout simplement, qui ont été perdues chez les plantes. Donc, on a tendance à dire, voilà, c'est pas des protéines végétales, mais non, ce sont des protéines qui ont été tout simplement perdues chez les plantes, et elles sont plutôt ancestrales. Un exemple du même type, on peut le trouver chez les enzymes qui sont impliquées dans l'immunité innée. Et parmi ces enzymes impliquées dans l'immunité innée, il y en a une qui est particulièrement importante, en ce sens qu'elle permet ce qu'on appelle le burst oxydatif, mais bon, en français, il faudrait dire bouffée oxydatif, c'est-à-dire l'émission d'espèces activées de l'oxygène, par exemple le superoxyde. Cette émission d'espèces activées d'oxygène, elle est centrale. Elle est centrale dans tous les mécanismes de l'immunité innée, que ce soit chez les animaux, chez les plantes ou chez les algues. Hein? Donc cette enzyme, c'est on l'appelle une ADPH oxydase. Et elle est présente partout, chez toutes les lignées qui ont été regardées. Lorsqu'on regarde les relations phylogénétiques des NADPH oxydases, on constate que finalement les NADPH oxydases des algues rouges sont plutôt plus proches, bon, ça s'interprète en tout cas comme ça, plutôt proches, plus proches des NADPH oxydases des animaux que de celles des plantes. En tout cas, elles ne sont pas proches de celles des plantes, à l'évidence. Donc là encore, on est dans un cas de figure un peu identique à tout à l'heure. Les NADPH oxydases des algues rouges et des algues brunes sont phylogénétiquement plus proches de celles des animaux que de celles des plantes. Donc on en arrive à penser que, vraisemblablement, la capacité de produire des espèces activées de l'oxygène, qui est importante, encore une fois, dans l'immunité innée, existait avant la divergence des diverses lignées. Donc c'est plutôt une caractéristique ancestrale et pas une caractéristique récente. Et donc, alors la question était de savoir à quoi pouvaient servir ces protéines dans l'ancêtre. Et bon, on pense que ça servait à sentir l'oxygène et puis à signaler la présence d'oxygène. Mais là encore, des choses qui fonctionnent dans notre vie de tous les jours, manifestement, on peut les faire remonter à quasiment plusieurs milliards d'années. Je pourrais prendre un autre exemple, des enzymes qui sont impliquées dans la modification des lipides des membranes, toujours en réponse à des infections et qui donnent naissance chez les animaux aux prostaglandines. Eh bien là encore, lorsqu'on regarde ces enzymes, donc qu'on a trouvé également dans le génome des algues rouges et des algues brunes, eh bien on constate que les parentés phylogénétiques, enfin que les glutathions S-transférases, donc des GST, des algues, sont plus proches phylogénétiquement de celles des animaux que de celles des algues, que de celles des plantes. Et ceci en dépit du fait qu'il y a une parenté phylogénétique évidente entre les algues rouges et les plantes vertes. Néanmoins, les gènes contenus dans les génomes sont phylogénétiquement plus éloignés. Alors comment on interprète tout ça? Certains de mes collègues parlent de caractère animaux versus caractère végétaux. Ça me gêne un peu, je préfère parler de caractère ancestraux. Si je voulais conclure ce que je viens de vous dire, donc les algues marines possèdent, vous voyez, de nombreux gènes qui sont phylogénétiquement plus proches de leurs orthologues des métazoaires. Bon, on a parlé des NADPH oxydases, glutathion S-transférase, ou même, à la limite, qui sont absents chez les plantes. Par exemple, des sulfatases, qui ne sont pas présentes chez les plantes, ou encore des enzymes qu'on appelle des myéloperoxydases, qui, à nouveau, sont très, très impliquées dans la défense, dans les globules blancs, et qu'on trouve également chez les algues rouges, et qu'on ne trouve pas chez les plantes vertes. Donc, on pourrait dire que les enzymes en question des algues sont des enzymes animales, mais non, c'est à mon avis une erreur. Il vaut mieux parler d'enzymes ancestrales. Donc il est probable que tous ces gènes étaient déjà présents dans l'ancêtre commun à ces lignées. Et à l'évidence, donc avant l'endosymbiose plastidiale. Donc c'est des choses qui remontent à plusieurs millions d'années, ou plusieurs centaines de millions d'années même, hein, 1600, 1700. Donc en fait, des choses qu'on pourrait considérer comme animales sont en fait ancestrales. On les avait pas trouvées chez les végétaux, mais on les trouve chez les algues. Donc elles sont ancestrales, elles sont pas animales. Alors dans le cas des végétaux, dans le cas des plantes terrestres, celles que vous connaissez, ces plantes terrestres, souvent, elles n'ont pas ces enzymes, elles n'ont pas ces protéines. Et du coup, on en vient à penser que les plantes terrestres ont pu perdre ces enzymes ancestrales, et que d'une manière ou d'une autre, c'est sans doute lié à la conquête du milieu terrestre. Mais néanmoins, j'en arrive à penser que les plantes terrestres sont des végétaux un peu plus dérivés que les végétaux de type algue. Hein, et que donc on ne peut pas voir le monde comme les animaux d'un côté et les plantes de l'autre. Il y a des choses entre les deux. Alors là, je vais vous parler d'une innovation faite par les algues, qui est la capacité à accumuler l'iode et à l'utiliser pour se défendre contre les agressions. Donc comme je l'ai dit, les algues étaient la matière première pour produire l'iode, et ça provient du fait que, enfin sont toujours d'ailleurs, que les laminaires, alors c'est les laminaires, hein, pas les autres algues, sont capables de concentrer très fortement l'iode de l'eau de mer. Et cet iode, elle est stockée dans la matrice extracellulaire à nouveau, sous forme iodure, et on a pas mal travaillé là-dessus, et donc on est à peu près sûr aujourd'hui que l'iode est pour ces végétaux un antioxydant, hein, chez les plantes et les animaux, c'est le glutathion, et c'est aussi une source de composés antimicrobiens. Alors, il est important que vous réalisiez que les fucales qui ne concentrent pas l'iode et les laminariales sont assez éloignées phylogénétiquement. Au passage, vous verrez que les ectocarpales, dans lesquelles on trouve Ectocarpus évidemment, sont plus proches des laminaires que des fucales. C'est aussi un peu pour cela qu'on a choisi de séquencer ce génome plutôt qu'un autre. Alors, la capacité à concentrer l'iode provient essentiellement d'un enzyme qu'on appelle une alloperoxydase, qui est capable d'oxyder les iodures. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de choses qui se produisent, qui fait que l'iode est concentré dans l'algue. Et là, je vous montre une relation, encore une fois, un arbre phylogénétique des alloperoxydases. Alors, il y a deux types d'alloperoxydases, du moins pour le cas qui nous intéresse. Des peroxydases capables d'oxyder l'iode, on appelle ça des iodoperoxydases. Et des peroxydases capables d'oxyder le brome, ou le bromure plus exactement, on appelle ça des bromoperoxydases. Et en fait, toutes les algues ont des bromoperoxydases. Seuls les laminaires ont des iodoperoxydases. Donc seuls les laminaires ont la capacité d'oxyder les iodures. Et vraisemblablement, c'est lié à une mutation qui s'est produite. Alors, on peut dire que ça s'est produit assez récemment parce que, vous voyez, les iodoperoxydases des laminaires sont plus proches des bromoperoxydases des fucales que des bromoperoxydases des laminaires. Donc c'est quelque chose qui a dû apparaître. C'est une mutation qui a apparu dans les bromoperoxydases après la divergence entre les fucales et les laminaires. Alors on a regardé dans le détail à quoi c'était dû, cette mutation. Donc on peut modéliser, on peut faire des structures tridimensionnelles des iodoperoxydases des alloperoxydases lorsqu'on a la séquence, on peut faire cela. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une mutation essentiellement dans le site actif là, les bromoperoxydases, qu'elles soient de fucales ou de laminaires, ont une sérine ici, alors que les iodoperoxydases ont une anaïne. Donc cette simple mutation, bon c'est sans doute un peu plus compliqué que ça, je vous l'accorde, mais cette mutation a donné la capacité aux laminaires d'oxyder les iodures, une capacité que les fucales n'ont pas. Alors il se trouve que les laminaires, lorsqu'elles sont exposées à des stress, soit biologiques, soit non biologiques, par exemple les rayonnements ultraviolets, relarguent l'iode dans l'atmosphère. Et cet orgue, et en fait quelque part, c'est parce qu'il y a eu cette mutation il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années, sérine, analine, que les laminaires sont capables de concentrer l'iode et donc de le relarguer dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, concrètement, si l'air marin, ou du moins l'air côté, est iodé, c'est parce qu'il y a des laminaires. Et quelque part, vous voyez, cette mutation a eu des conséquences importantes dans le cycle biogéochimique de l'iode. Alors le troisième grand secteur que je veux toucher, c'est donc la capacité qu'ont les organismes multicellulaires à établir des plans de développement qui sont strictement régulés, donc dans l'espace et dans le temps. Lorsqu'on est une plante, ou lorsqu'on est un végétal, ou lorsqu'on est un animal, on ne doit pas faire face tout à fait aux mêmes contraintes. Un végétal, en définitive, qu'il soit fixé ou pas, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir où est la lumière. Bon, il se trouve que de savoir où est le fond, c'est également la même chose. Enfin, c'est également important, mais ça revient au même, puisque de toute façon, il y a un axe évident entre le soleil et le fond. Lorsqu'on est un animal, par contre, c'est plus compliqué. Ce qui est important, en fait, c'est sa capacité, la capacité à capturer des proies. Et chez les animaux les plus évolués, finalement, on arrive à deux types d'axes, l'axe oral-aboral et l'axe antérieur-postérieur. Mais chez les animaux les plus simples, c'est un axe oral-aboral. Mais peu importe, ce qui est essentiel de retenir, c'est que lorsqu'on est un organisme pluricellulaire et qu'on doit se nourrir, eh bien, il faut à un moment ou à un autre spécialiser ses cellules. Et cela, ce n'est pas fait au hasard, c'est fait selon des axes de développement très précis. Donc, il faut réguler tout cela. Et donc, les généticiens, en particulier les généticiens qui ont travaillé sur les bactéries, mais nous aussi, de fait même, hein, puisque la génétique a été inventée essentiellement par les microbiologistes, eh bien, considèrent que les types de mécanismes qui permettent de réguler le développement chez les organismes pluricellulaires, bon, évidemment, tout ça, c'est complexe. Hein, à l'évidence, il faut qu'il y ait des régulations extrêmement précises. Et jusqu'à présent, on avait tendance à considérer que ces réseaux de régulation de l'expression des gènes étaient essentiellement fondés sur des interactions entre les protéines, qu'on appelle des facteurs de transcription, et l'ADN, ou du moins des régions précises de l'ADN qu'on appelle promoteurs. Alors évidemment, ça devient vite un peu compliqué lorsque vous devez réguler par ce type de réseau l'expression de 4 gènes à la fois. Hein. Ça a été étudié souvent pour un gène, mais bon, c'est étudié de plus en plus. Alors si vous réfléchissez à ce genre de choses, il y a des régulations entre protéines et ADN, eh bien ma foi, au bout d'un certain temps, plus l'organisme devient compliqué, vous en êtes amené à penser que plus l'organisme est compliqué, plus il faut de protéines différentes pour réguler son développement. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Parce qu'en réalité, il n'y a pas réellement de corrélation entre la complexité d'un organisme, quel qu'il soit, et le nombre de gènes codés par son génome. Donc le nombre de protéines codées par son génome. Si je prends les protozoaires, par exemple, on peut prendre la paramécie, qui a une cellule, eh bien, elle a 30 000 gènes. Bon, si on prend Caenorhabditis, il a 1000 cellules, et lui, il a 13 000 gènes. Si on prend la mouche, 10 000 types cellulaires, 8 000 gènes. Et puis si on prend l'homme, le roi de la création, évidemment, beaucoup de cellules, hein, plusieurs milliards de cellules, du moins de types cellulaires, mais seulement 30 000 gènes, c'est-à-dire pas plus que la paramécie. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites par ce monsieur qui s'appelle John Matic, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Il y a une chose qui est assez intrigante également, c'est que la proportion d'ADN dans le génome qui ne code pas pour des protéines. Alors on a tendance à raccourcir, on dit c'est l'ADN non codant. Bon, ça code, mais pour autre chose. Eh bien, elle augmente à mesure que l'organisme devient le plus complexe. C'est-à-dire que si on prend des microbes, des bactéries, vous voyez que la proportion chez les bactéries, la proportion d'ADN qui ne code pas pour des protéines est très faible, hein, aux alentours de 10%. Et ce qui ne code pas pour des protéines, ça code pour les promoteurs et ainsi de suite. Donc la notion dont je vous ai parlé tout à l'heure, régulation promoteur-protéine, vient de là. Mais lorsqu'on regarde des organismes plus complexes, et donc, vous voyez, la souris et l'homme sont là-haut, les plantes sont ici, si on peut lire, Arabidopsis est là, et puis le riz doit être là, eh bien, vous voyez que chez l'homme, par exemple, ou même chez les plantes, mais si on prend l'homme, 98% de son ADN ne code pas pour des protéines. Alors, on a appelé ça à un moment de l'ADN poubelle, parce que ça ne code pas pour des protéines. Bon, évidemment, c'est assez délicat d'imaginer que 98% de notre ADN ne sert à rien. Donc, du coup, on évolue un petit peu, on essaye d'aller plus loin. Et en fait, on s'est aperçu, c'est les généticiens de l'homme qui font ce genre de choses, donc je vous livre leurs conclusions, mais on s'aperçoit que finalement, chez l'homme, une grande partie de l'ADN code pour des ARN, mais qui ne sont pas ensuite traduits en protéines. Mais ces ARN servent à quelque chose, et en fait, ils servent à énormément de choses. Bon, il y a un certain nombre d'exemples qui sont indiqués ici. Ils servent en fait à des mécanismes de régulation qu'on appelle épigénétiques, en ce sens qu'ils ne sont pas fondés sur des gènes codant pour des protéines. Hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors ça, c'est à nouveau ce monsieur Matic qui fait ce bilan. Mais il n'est pas le seul à penser ça. Donc je reviens sur un conférencier que quelqu'un a peut-être, enfin que certains d'entre vous ont peut-être entendu cette semaine. Donc Bernard Dujon pense la même chose. Et lui, il va même plus loin, c'est-à-dire qu'il considère en fait que l'ARN peut même participer, participe à la création de gènes. C'est-à-dire que l'ARN participe à l'évolution du génome. Hein. Il y a des exemples de plus en plus nombreux qui montrent, lorsqu'on s'intéresse à la dynamique des génomes et les mécanismes, on s'aperçoit que des mécanismes fondés sur l'ARN ou des événements médiés par l'ARN sont à l'évidence impliqués dans l'évolution des génomes. Alors en fait, il en arrive à penser, là je pense qu'il faut que vous... Il a peut-être montré cette diapositive, mais je pense que ça vaut la peine de la remontrer. Il y a quand même des changements dans notre façon de voir les régulations génétiques. Et lorsque, effectivement, les premières choses ont été faites, on considérait que le point essentiel des régulations génétiques, c'est l'ADN. Hein, donc ça, c'est ce qui est observé à partir de bactéries. Et que, la fonction d'un ADN, c'est de donner naissance à des protéines. Et l'ARN, il est juste un petit intermédiaire là qui sert à la transcription. Mais le but final, c'est quand même de donner une protéine. Ça, c'est ce qu'on pense lorsqu'on étudie les bactéries. En fait, ça a commencé un peu à changer au milieu des années 80, enfin 70-80, quand on s'est aperçu que, l'ARN est capable de faire d'être transcrit inversement, de faire de la transcription inverse. Il y a également des phénomènes d'editing, d'épissage. Donc là, vous voyez, l'importance de l'ARN dans la régulation commence à devenir un peu plus grande. Et puis finalement, la protéine n'est plus très importante. Mais aujourd'hui, en fait, on considère donc que l'ARN est réellement la molécule clé, donc il l'a dit en anglais, mais on peut vous le redire en français, la molécule clé des régulations génétiques chez les eucaryotes, en particulier chez les eucaryotes pluricellulaires. Hein, donc c'est des ARN, des événements médiés par l'ARN qui sont réellement à la base de la complexité cellulaire, de l'organisme, du corps, chez les eucaryotes. L'ARN et pas l'ADN. Il y a une autre manière, à la limite, de dire cela, c'est que le code génétique est un code génétique qui est plus fondé sur l'ARN. Donc c'est ce qu'on appelle un code digital par opposition à un code analogique qui était fondé sur l'ADN et la capacité donc de l'ADN à coder pour des protéines. Alors, John Matic, à nouveau, il a tendance à considérer, je serais assez volontiers prêt à le suivre là-dessus, que finalement, la complexité, vous voyez, ici, là, on montre donc l'apparition des organismes pluricellulaires. Alors ça, c'est des choses qu'on peut dater parce qu'on a des références géologiques qui montrent la présence d'éponges, par exemple, des choses comme ça. Au passage, on trouve des algues rouges unicellulaires dans des formations géologiques qui datent de 1800 millions d'années. Donc les algues rouges viennent d'assez loin, mais les organismes pluricellulaires, on date leur apparition aux alentours de 540-550 millions d'années au Cambrien. Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver les fossiles correspondants. Donc, ça représente l'apparition des organismes pluricellulaires dans la vie. Et il fait coïncider ça, le développement de cette apparition, à l'entrée et l'expansion d'introns, qui sont donc des parties transcrites, ou pas d'ailleurs, mais non traduites de toute façon de l'ADN, et que c'est vraisemblablement l'entrée, l'acquisition, puis l'expansion des introns de type 2, qui sont des introns autocatalytiques, qui ont permis le développement des régulations par l'ARN. Et selon Matic, c'est cela qui est à l'origine de la complexité de l'architecture multicellulaire. Donc le troisième événement, vous voyez, développement, on en arrive à penser que l'ADN, évidemment, c'est nécessaire, mais que la capacité de cet ADN à coder pour des ARN, qui eux-mêmes font un certain nombre de choses derrière, c'est un élément essentiel des mécanismes de développement. Alors, les algues dans tout ça. Donc je résume ici les caractéristiques, les algues, ou du moins les génomes des algues. Les caractéristiques donc des génomes qui sont associés à l'évolution vers la multicellularité. Alors j'ai mis en italique les deux premières propositions parce qu'elles ne sont pas nécessairement justes. Donc vous voyez, le fait qu'il y ait que les organismes cellulaires les plus complexes, multicellulaires les plus complexes et les génomes les plus gros, c'est pas nécessairement vrai, parce qu'il peut y avoir des duplications de génomes. Le fait que les organismes pluricellulaires les plus complexes aient un grand nombre de gènes codant pour des protéines, là je vous l'ai indiqué, c'est réellement pas vrai. Par contre, ils ont plus d'introns, plus de transposons. Ils ont également, puisque leur matrice extracellulaire s'est développée, plus de protéines de la matrice extracellulaire et puis de signalisation. Ils ont un nombre de plus grandes protéines, plus grosses avec divers domaines, donc les protéines recrutent divers domaines. Et puis donc ce que je voulais... il peut y avoir aussi des familles multigéniques qui se développent, et en général, c'est ligné spécifique. Alors, dans les algues brunes, par exemple, et en particulier dans les algues brunes, on trouve des alloperoxydases qui ont évolué en famille multigénique. Et ça traduit le fait que les algues brunes utilisent ce métabolisme des halogènes pour faire un grand nombre de choses, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les algues rouges ou dans les plantes vertes. Et puis, il y a ce dont je viens de vous parler, l'évolution d'un système de régulation de type digital par opposition à analogique, qui permet de faire des choses beaucoup plus fines. Donc, jusqu'à présent, on faisait ce genre de déduction à partir de la connaissance de génomes animaux, donc métazoaires, donc multicellulaires composés à des choses proches, par exemple les levures, ou les relativement proches phylogénétiquement, mais qui sont unicellulaires. Donc quand on compare un génome pluricellulaire un génome d'organisme pluricellulaire à un génome d'organisme unicellulaire, on peut éventuellement faire ce genre de déduction, mais jusqu'à présent, on avait la base animaux, champignons, plantes, algues vertes unicellulaires. Et donc ce qui est intéressant, c'est lorsque d'autres génomes arrivent, par exemple le génome du coprin, qui est un champignon pluricellulaire comparé à d'autres champignons unicellulaires, ou donc le génome des algues brunes, Ectocarpus, comparé à celui des diatomées qu'on connaît, et puis celui de Chondrus qui va être comparé à celui de cette petite algue rouge, Cyanisos qu'ils ont, on devrait être en mesure d'avoir une vision plus globale et donc peut-être plus juste de ces choses. Alors, on débute donc sur ces questions-là. Donc, je peux vous donner quelques indications qui sont donc très préliminaires, qui ne sont pas nécessairement gravés dans le marbre, mais bon, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Si je reviens dans 2 ans, peut-être que j'aurai d'autres choses à dire. Concernant le génome de Chondrus crispus, les premières données. D'abord, bon, la taille de génome, c'est 140 millions de bases. Le nombre de chromosomes, du coup, on le connaît qu'avec une précision relative. Et donc, pour l'instant, on a accès simplement à une séquence à peine ébauchée, hein, qui est couverture 1X. Bon, on se dit qu'il y a à peu près 30 000 gènes. Que ces gènes ne sont pas très très différents des gènes bactériens. En particulier, ils sont très peu d'introns. Bon, il y a un intron toutes les 2000 paires de bases, qui est relativement peu. Il y a des régions intergéniques classiques, avec vraisemblablement, ça on l'a fait avant d'avoir les génomes, la présence de promoteurs et de choses comme cela. Et puis au total, la proportion d'ADN qui ne code pas pour des gènes, elle est évidemment assez élevée, mais pourtant c'est à peu près ce qu'on trouve chez les Arabidopsis par exemple. Hein. Donc on peut dire jusqu'à présent que lorsqu'on s'intéresse à la structure du génome proprement dit, pas les gènes, mais la structure du génome, eh bien l'organisation génomique des algues rouges ressemble à celle de leur lignée sœur, les plantes. C'est totalement différent lorsqu'on s'intéresse à Ectocarpus siliceosus, hein, l'algue brune. Parce que lui, enfin, cette espèce a une structure génomique extrêmement différente. Et pour tout dire, assez inhabituelle. En particulier, on n'arrive pas à trouver. Donc, alors ça, on montre. Là, je vous ai montré, enfin, c'est, j'ai tiré de ça chez Marc Koch. Je vous ai montré un contigue, donc une portion du génome. Hein, ça fait. Ça doit faire une dizaine de KB, une dizaine de kilobases, ou une vingtaine de kilobases. Et ce qu'on regarde, et c'est vrai dans tous les contigues qu'on examine, donc c'est pas seulement celui-là, c'est tous. Hein. Et en fait, on trouve très peu de zones dites intergéniques, c'est-à-dire des zones où il y a peu de gènes. Elles sont assez courtes. Les séquences qu'on appelle 3' non traduites, 3' UTR à cause de l'anglais, sont très longues, 1500 paires de bases souvent. Hein. Et surtout, on trouve beaucoup d'introns, énormément d'introns dans ces génomes. Vous voyez ce gène-ci, par exemple. Là, c'est un gène, cette fois. Oui, pardon, là, c'est des mégabases, là, c'est des kilobases, pardon. Ce gène contient 59 introns. Donc, un seul gène, une seule protéine, 59 introns. Et lorsqu'on s'intéresse à l'échelle du génome entier, en fait, on arrive à une moyenne de près de 7 introns par gène, ce qui n'est pas très loin de ce qu'on trouve chez l'homme. Mais le génome de l'homme, il a des séquences intergéniques. Il est beaucoup plus gros, hein, il fait 3000 paires de bases, celui-là ne fait que 200. Et donc on en arrive à penser que la proportion d'ARN dans ce génome, ou du moins d'ADN qui code pour des ARN, d'ADN non codant, et surtout la répartition de cet ADN non codant, est très très inhabituelle. Et donc là c'est une hypothèse pour l'instant, hein, puisque je reste effectivement prudent. On en vient à penser que les algues brunes, ou du moins Ectocarpus, mais bon, on verra pour les autres algues qu'on séquencera, pourrait utiliser intensivement des systèmes de régulation par les ARN. Donc voilà, tout ça reste évidemment à prouver, mais en tout cas, au niveau de la structure du génome, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est la première fois qu'on voit ça, sauf chez un organisme très évolué qui est l'homme. Alors, je vais conclure. Je vais conclure en espérant que je vais éliminer un certain nombre d'idées qui sont reçues ou préconçues, mais qui sont fausses. Et qui découlent de la vision que je vous ai présentée au début, la vision desquelles l'arbre de la vie, règne animal, règne végétal. Ça, c'est une vision presque biblique de l'évolution, en tout cas linéaire, et elle est manifestement inexacte. Alors, ces idées reçues que vous pouvez avoir, certaines sont justes, d'autres sont fausses. Une idée qui me paraît juste, c'est les lignées pluricellulaires dérivent d'ancêtres unicellulaires. Ça, c'est vrai. Alors, on en arrive à penser ensuite que les lignées morphologiquement simples donnent naissance à des lignées plus complexes. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Il se trouve que certaines lignées complexes peuvent régresser vers des lignées moins complexes. Et puis après, ça devient beaucoup plus délicat. Lorsque j'ai commencé, je vous l'ai dit, je travaillais sur des végétaux inférieurs. Et pourquoi je travaillais sur des végétaux inférieurs? Parce que ces lignées contemporaines, considérées comme peu différenciées, elles sont aussi considérées comme inférieures. Et on en vient même à penser qu'elles ont eu comme destinée manifeste, hein, c'est presque du créationnisme, même si on s'en défend, de donner naissance à des lignées supérieures, par exemple les plantes en ce qui concerne les algues. On va même plus loin quelquefois dans notre façon inconsciente d'évaluer les choses. On se dit qu'une fois que leur destinée manifeste a été accomplie, ben, ces lignées inférieures, elles ont rempli leur rôle dans l'évolution, donc elles cessent de se différencier, voire même d'évoluer. Et tout ça, c'est faux. Et j'espère aujourd'hui vous avoir démontré que c'est faux, et je vais revenir sur un certain nombre d'exemples. Mais deux lignées sœurs, évidemment, au moment où elles se séparent, elles possèdent le même bagage évolutif, le même atout, hein, celui qui était apporté par leur dernier ancêtre commun. Mais il n'y a pas de raison que ces lignées sœurs, il y en a une qui cesse d'évoluer et l'autre qui continue, selon la vision desquelles. Donc elles continuent d'évoluer, et elles évoluent indépendamment les unes des autres. Hein. Alors elles vont diverger à partir de ce moment-là, et les divergences qui sont retenues au cours de l'évolution, voire même les innovations, par exemple la capacité des algues brunes à utiliser l'iode. Tout cela, évidemment, c'est ce qu'on appelle la spéciation, et ça permet la colonisation de nouveaux milieux de vie. Mais le point essentiel, c'est que deux lignées sœurs qui se séparent, eh bien, les deux continuent d'évoluer. Et donc, il faut que vous ayez présent à l'esprit que toutes les lignées contemporaines, toutes celles qui existent toujours aujourd'hui, elles ont, à l'évidence, subi la même durée d'évolution, qui, pour les eucaryotes, peut remonter à au moins 3 milliards d'années, depuis les procaryotes, puis etc. Donc, il n'y a pas de phylum qui cesserait d'évoluer. Et donc, en ce sens, il n'y a pas de lignée inférieure ou de lignée supérieure. Je pense que pour ceux qui ont écouté Bernard Dujon, il compare l'évolution des levures. Bon, Dieu sait si les levures, il faut être levuriste pour apprécier une levure. Eh bien, l'évolution des levures, c'est au moins aussi grand, aussi long que l'évolution des vertébrés. Donc, voilà, je tenais à conclure là-dessus pour que vous voyez que finalement, toutes les lignées évolutives toujours présents, enfin tous les organismes présents sur Terre sont dignes d'intérêt, qu'ils soient petits, peu complexes, rouges ou bruns ou verts. Il me reste peut-être une ou deux minutes pour vous parler très rapidement de ce qu'on veut, ce qu'on fait ou ce qu'on essaye de faire dans le domaine des biotechnologies, puisque c'est dans mon titre. Bon, le point essentiel, en fait, c'est que on a aujourd'hui des ressources génomiques de plus en plus grandes pour faire des biotechnologies à partir des algues marines. Alors, les ressources génomiques, ce sont soit les génomes des algues, par exemple Chondrus crispus, et bientôt, je l'espère, celui de laminaire, même s'il est gros, hein, 600 millions de bases. Mais on a aussi des génomes de bactéries associées aux algues. Donc en fait, lorsqu'on s'intéresse aux produits des algues, évidemment, ce qui fait la biosynthèse, eh bien, c'est l'algue elle-même. Donc là, on va avoir accès aux enzymes de biosynthèse. Par contre, dans les bactéries, par exemple celle-ci, qu'on a séquencée à Roscoff, enfin qu'on a annotée à Roscoff, ou celle-ci qui a été séquencée par des collègues allemands, eh bien, ces bactéries contiennent tous les gènes pour dégrader et modifier, par exemple, les polysaccharides des algues brunes ou des algues rouges. Et on a accès à ces génomes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Donc à partir de là, eh bien, lorsqu'on regarde les tendances des biotechnologies des macroalgues, il y a un certain nombre de choses qui commencent à se dessiner. On pense qu'on peut trouver de nouveaux bioproduits pour la santé et voire même les nanotechnologies, là, la partie polysaccharide. On pense que on peut développer de nouveaux bioprocédés à partir des enzymes extraits des algues, présentes dans les algues, en particulier tout ce qui est halogénation ou déhalogénation. Et puis évidemment, il y a tout un secteur dans lequel nous ne sommes pas, mais qui pourrait être utilisé par d'autres. Ces génomes sont des connaissances absolument fondamentales pour améliorer génétiquement les espèces cultivées. Alors, en ce qui nous concerne, pour passer d'un gène, enfin le gène c'est bien, mais à un moment ou à un autre, il faut que vous ayez la protéine exprimée, produite, fonctionnelle. Et donc, en ce qui nous concerne, on s'intéresse à faire cela. Donc, on a développé un programme qui s'appelle Marine Express, qui a pour but de produire systématiquement, ou du moins un certain nombre d'enzymes qui nous intéressent. Hein. Et donc, on a, là, ça, je vous montre quelques résultats récents qui montrent notre capacité à produire en fermenteur et même éventuellement de manière industrielle s'il le fallait, des enzymes qui sont soit extraites d'algues, hein, par exemple, vous voyez cette enzyme qui intervient dans le métabolisme des, on va dire, allez, des prostaglandines chez Ectocarpus, celui-là, c'est pareil, c'est une prostaglandine synthase qu'on trouve chez Chondrus crispus. Bon, ça, on est capable de l'exprimer aujourd'hui de manière soluble et fonctionnelle. Ça, ce sont par contre des enzymes qu'on a clonées et exprimées à partir de bactéries qui dégradent et modifient les polysaccharides des algues. Et enfin, il y a tout ce qui concerne le métabolisme halogéné, où là, c'est complètement, enfin, c'est essentiellement, enfin, c'est une innovation des algues. Donc, si un jour ou l'autre, on voulait travailler là-dessus, eh bien, effectivement, les enzymes qui font ce genre de choses seraient utiles. Et donc, on a commencé à on les a clonés et exprimés, et aujourd'hui, ils sont fonctionnels. Donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, compte tenu du temps, sur la partie biotechnologie, mais il est clair que la génomique nous mène quasiment ipso facto aux biotechnologies. Et donc ma conclusion, c'est que j'espère vous avoir convaincu que les algues sont un ensemble varié, polyphylétique évidemment, de végétaux, mais que ça vaut la peine de les regarder et de les étudier. Merci de votre attention.
Merci Bernard Cloireg. On va passer aux questions. Attendez, nous en avons une ici, monsieur.
Merci. Est-ce que l'étude du génome permet d'avancer sur les cycles de vie? On sait tous qu'il y a une alternance entre un sporophyte et un gamétophyte, et il y a parfois des réductions de générations. Est-ce que l'étude du génome permet de faire avancer ces études?
Oui, alors, tout à fait. En fait, on le fait même chez nous. Hein. J'ai pas... Donc, Marc Koch s'intéresse mon collègue Marc Koch s'intéresse à la biologie du développement des ectocarpus, où il y a une alternance sporophyte-gamétophyte qui n'est pas spectaculaire, mais qui est réelle. Et donc, quand vous avez accès au génome d'ectocarpus, vous pouvez regarder quels gènes sont exprimés dans le sporophyte, quels gènes sont exprimés dans le gamétophyte. Donc ça, il l'a fait. Et puis, vous pouvez ensuite vous amuser à faire de la génétique, essayer de muter un sporophyte en gamétophyte, par exemple, ou réciproquement, et regarder si les gènes dans le mutant sont les mêmes que ceux dans le gamétophyte normal. Donc, effectivement, la génomique permet une analyse beaucoup plus fine de l'alternance gamétophyte-sporophyte, simplement en regardant quel gène. Alors, quand je dis quel gène, c'est des milliers de gènes qui sont regardés. Aujourd'hui, on a des techniques qu'on appelle la transcriptomique qui permettent de regarder l'expression de 5000 gènes à la fois.
Autre question. Oui, là-haut.
Est-ce qu'on peut envisager de favoriser l'alimentation en utilisant des algues? Bon, jusqu'à présent, il y a peu de gens qui mangent des algues. Il y a les Chiliens, il y a les Japonais. Mais est-ce qu'en bricolant un peu les génomes, on pourrait rendre plus d'algues acceptables?
Les OGM.
Alors, bon, d'abord, toute l'Asie, depuis donc le Japon, la Chine et ainsi de suite, la Corée, mange des algues. Certaines algues unicellulaires, certaines étant d'ailleurs des cyanobactéries, sont également cultivées ailleurs pour comme source de protéines, mais force est de reconnaître que les algues ne sont pas, sont plutôt, enfin, l'essentiel du métabolisme des algues, c'est une généralité, donc comme toutes les généralités sont fausses, mais c'est quand même tourné vers les polysaccharides, plus que vers les protéines. Alors il y a toujours des exceptions. Porphyra est plus riche en, en protéines que laminaire, par exemple, enfin, en pourcentage. Donc je ne suis pas absolument persuadé qu'on arrivera à résoudre le problème de la faim dans le monde avec des algues. Par ailleurs, la question que vous posez pose à l'évidence la question de l'acceptabilité des organismes génétiquement modifiés, en particulier en mer, où la dispersion, enfin les risques de dispersion sont au moins aussi grands qu'à terre. Alors après, il y a une autre manière de répondre à votre question, c'est de prendre certaines algues et de considérer que ces algues seront des usines pour fabriquer effectivement des choses qu'elles ne fabriquent pas d'habitude, donc faire de la transgénèse de métabolisme entier. Ça, c'est pas totalement impossible si ensuite ces algues sont maintenues dans des fermenteurs et qu'il n'y a pas de risque d'échappement, quoi. Donc ma réponse est mitigée parce que je pense pas qu'on... Bon, d'abord, je vois à peu près ce que les algues sont capables de produire, donc sauf à trouver une espèce qu'on ne connaît pas bien et qui serait extrêmement riche en protéines. Ou alors effectivement faire du génie génétique vraiment à fond et y aller. Alors, l'autre chose, si je puis me permettre de rebondir sur votre question, une chose par exemple, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les algues vont réduire le problème des résoudre le problème des biocarburants. Là aussi on peut se poser la question. Ce serait à la limite moins. Enfin, il faudrait faire tout un travail de passer des polysaccharides au glucose et puis ou du moins aux oses correspondants et ensuite transformer ça en fuel. Alors, il y a pas mal de sociétés qui travaillent non pas sur des grandes algues, mais sur des micro-algues, qui, elles, produisent des lipides qui, bon, seraient a priori plus intéressants pour aller dans cette direction. Donc, il y a l'alimentation, mais il y a aussi la biomasse qui peut être utilisée pour faire des carburants. Certaines sociétés, encore une fois, travaillent plutôt sur des extraits d'algues type carotène, etc., qui sont beaucoup plus, dont la valeur ajoutée est a priori plus forte. Mais on est, nous, contactés en ce moment par des sociétés qui s'intéressent plus aux microalgues d'ailleurs qu'aux macroalgues, parce que la capacité à cultiver les microalgues est a priori, en particulier à terre, dans des régions ensoleillées, est plus faisable.
Bon, ben, s'il n'y a plus de questions. Encore une question ? Dernière.
Pardon. Tu as montré que l'évolution des algues vers les plantes terrestres, les sulfatases et les choses comme ça. Il y a des algues qui exondent à chaque marée. Est-ce qu'on voit chez le groupe des algues vertes et des algues brunes et rouges une tendance, une envie de prendre les caractéristiques des plantes terrestres?
Ça c'est pas facile à répondre. Non, j'ai envie à nouveau de dévier, si je puis me permettre de dévier la réponse. Je botte en touche, mais pas totalement. On a tendance à considérer, par exemple, que la vascularisation, donc la capacité à transporter des éléments nutritifs d'un endroit à l'autre dans une plante, ou même dans un animal d'ailleurs, est présente uniquement chez les plantes vasculaires et n'existe pas chez les algues. Or ça, c'est faux. Les grandes algues, donc les laminaires en particulier, ou les macrocystis, ont des structures vasculaires extrêmement développées, où il y a donc la translocation de nutriments d'un endroit à l'autre. Donc c'est un élément de réponse à la question. Dans le même ordre d'idée, comme on avait tendance à considérer que les algues ne sont pas vascularisées, personne n'a jusqu'à présent recherché si les algues sont capables de faire de la systémie. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'elles sont attaquées à un endroit donné ici, être capables de répondre là. Et nous, on travaille là-dessus maintenant depuis 2-3 ans, et la réponse est très clairement oui. C'est-à-dire que si une laminaire est attaquée à un endroit, elle va répondre sur l'ensemble de la plante. Et là encore, par contre, là, on pense que cette capacité est quelque chose qui est possible grâce à la vascularisation, hein, donc qui existe chez les laminaires et qui n'existe pas chez beaucoup d'autres algues. Donc systémie. Alors au passage, là encore, la capacité de se défendre de manière systémique, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'organisme, alors qu'on n'est attaqué qu'à un endroit donné, c'est manifestement une convergence adaptative, puisque à l'évidence, l'ancêtre étant unicellulaire, la systémie ne pouvait pas exister chez l'ancêtre. Donc ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir quelles molécules sont utilisées pour faire de la systémie. Est-ce que ce sont les mêmes chez les plantes, chez les animaux, et ainsi de suite.
Bien, Bernard Cloireg, merci beaucoup.